Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez peut-être remarqué, cette année, le 21 juin regroupe trois événements. Le début de l'été, la fête des pères et la fête de la musique. C'est sûr que cette année, la fête de la musique aura un caractère un peu particulier, compte tenu de la situation sanitaire. J'ai lu que quelques rassemblements auront bien lieu en extérieur. Et puisque nous parlons de rassemblement, avez-vous déjà assisté à une manifestation dans la rue? Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé en plein milieu d'une foule? Je crois que certains d'entre nous n'aiment pas ce trop plein de monde. Avez-vous déjà été dans un rassemblement pour célébrer une victoire? Que ce soit pour le foot ou après les résultats d'une élection? Je ne saurais plus dire en quelle année j'ai participé à la marche pour Jésus. C'était à cette époque pour moi une expérience incroyable, de pouvoir marcher librement dans les rues de Paris avec d'autres chrétiens un samedi après-midi, de chanter, d'acclamer le nom de Jésus sous les yeux des Parisiens. Alors c'était il y a bien longtemps, ça existe toujours, la marche pour Jésus. Et si vous avez vécu une de ces expériences que j'ai mentionnées, vous pouvez imaginer ce qui s'est passé ce fameux jour où Jésus est arrivé à Jérusalem à dos d'âne, accompagné par une foule enthousiaste, une sorte de marche pour Jésus avant l'heure. La scène que nous venons de lire est connue, au moins parce qu'on lit cette histoire lors du dimanche des Rameaux. Et pour ce qui nous concerne cet après-midi, aujourd'hui, nous ne sommes pas le dimanche des Rameaux, mais ce texte nous intéresse parce que depuis la semaine dernière, nous avons entamé une série de prédications sur la question « Qui est Jésus ?». Et cette question, on essaye d'y répondre à travers les quatre évangiles. Qui est Jésus ? Dans l'évangile de Matthieu, nous nous sommes arrêtés la semaine dernière sur l'affirmation que Jésus est le Messie, que l'Église est son projet, et qu'il devait accomplir une mission bien précise pour sauver l'humanité, c'est-à-dire souffrir, mourir et ressusciter. Alors aujourd'hui, nous continuons de creuser cette question à partir de ce texte de Marc 11. Et dans le parcours de Jésus, nous sommes à ce moment-là à la dernière étape, à Jérusalem. C'est là que Jésus va vivre sa dernière semaine avant de mourir sur une croix. Et comme nous l'avons lu, Jésus est aux portes de Jérusalem. Et les gens l'accueillent comme un roi. Pas n'importe quel roi, comme le roi qui devait venir, le Messie. Dimanche dernier, nous avons parlé aussi du secret messianique, c'est-à-dire le fait que Jésus interdit aux autres de révéler qui il est vraiment. Mais ici, il n'en est plus question. Ici, Jésus se révèle publiquement. Il révèle publiquement qu'il est le Messie attendu. Et c'est pourquoi il ne refuse pas l'hommage qu'on lui rend. Il est vraiment ce que la foule crie à son sujet, le roi messianique. Précisons encore que Marc, dans cet évangile, l'adresse à des chrétiens qui sont d'origine païenne, des non-juifs, pour qu'ils connaissent les détails de la vie de Jésus. Parce qu'il faut bien imaginer qu'à l'époque, il n'y avait pas les quatre évangiles que nous avons sous la main. Donc, Marc écrit cet évangile pour que ses destinataires puissent connaître les détails de la vie de Jésus, eux qui ne l'ont pas connu personnellement. Pour que ces détails confirment que Jésus est vraiment le Messie, que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Rappelons aussi qu'à cette époque, l'empereur romain pouvait se déclarer fils de Dieu, au sens païen. Alors dans ce contexte-là, qui est le véritable fils de Dieu ? Jésus ou bien l'empereur romain ? Qu'est-ce que Marc cherchait à communiquer à ses premiers lecteurs à travers le récit de cette arrivée royale de Jésus ? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire cet après-midi à travers sa parole ? Et encore une fois, c'est l'identité de Jésus qui est en jeu. Le message central qui nous intéresse, c'est que nous sommes invités, encouragés à reconnaître en Jésus le roi, venu humblement nous apporter la paix et le salut. À travers cet épisode de l'arrivée de Jésus à Jérusalem, il s'agit de reconnaître en Jésus, ce Jésus précisément, le roi venu humblement nous apporter la paix et le salut. Et pour cela, je vous propose de parcourir avec moi les trois étapes de notre récit. Premièrement, concernant une arrivée tout à fait préparée. Jésus n'arrive pas les mains dans les poches à Jérusalem, il y a une préparation. Et le récit de Marc expose sur 7 versets la préparation de Jésus pour arriver à Jérusalem. Et volontairement, je parle d'arrivée de Jésus pour ne pas utiliser le mot « entrée ». Parce que je pense, avec l'avis des spécialistes également, qu'il y a une distinction entre le moment où la foule acclame Jésus et son entrée dans la ville à proprement parler. Il y a une distinction, c'est deux temps différents. Et d'ailleurs, si vous observez le verset 11, vous avez cette précision au verset 11, donc à la fin de notre texte, « Jésus entra à Jérusalem ». Donc ça veut dire que tout ce qui est avant se passe avant cette entrée. Et d'ailleurs, chez Luc, pour compléter un peu cette information, chez Luc, la distinction entre les deux moments est assez nette. Nous lisons dans Luc chapitre 19, donc au verset 38, à peu près la même scène, la foule qui disait « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ». Et puis un peu plus loin, le verset 41, « Quand il l'approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura. » Quand il l'approcha de la ville. Donc on a vraiment deux moments distincts. Le moment du cortège et les cris de la foule, et puis l'entrée à proprement parler de Jésus. Et peut-être qu'entre-temps, Jésus était déjà descendu de l'annon. L'entrée de Jésus à Jérusalem se fait donc dans un deuxième temps. Mais avant tout ça, Jésus prend le temps de préparer son arrivée. Il confie une mission à deux de ses disciples qui consiste à aller lui chercher une monture, un annon, le petit d'une ânesse, avec des instructions bien précises. Ce sera un annon attaché quelque part, que personne n'aura monté. Alors, on peut souligner qu'ici, seul Jésus pouvait connaître ce genre de détails. De pouvoir dire un animal que personne n'a monté. Et il anticipe même sur la réaction des gens de son peuple, enfin, des gens du village plus précisément. Ce qui est tout à fait normal. Parce que imaginez que quelqu'un s'approche de votre vélo pour l'emprunter. Ben, votre réaction naturelle, c'est de dire « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et la réponse que Jésus anticipe est la suivante, verset 3. Voilà ce que les disciples devront répondre. « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. « Le Seigneur en a besoin. » Le Seigneur a besoin de cet annon. C'est juste un nom, un emprunt temporaire. Mais voilà une chose curieuse, que le Seigneur puisse avoir besoin de quelque chose de la part des hommes. Est-ce que tout n'appartient pas au Seigneur ? C'est une réponse curieuse. Le Seigneur en a besoin. Et les disciples se rendent donc dans ce village et tout se passe comme Jésus l'avait anticipé. Encore un indice que Jésus a une connaissance des événements qui est bien supérieure à la nôtre. Parce qu'il est Dieu, il sait tout. Même si, par moments, dans son ministère sur terre, Jésus a volontairement limité son savoir. Mais en temps normal, il sait tout. Et ici, Jésus montre qu'il est au contrôle de la situation. L'heure de son arrivée à Jérusalem a sonné. Il faut faire les choses comme prévu. Observez encore quelques détails au verset 4. Jésus parlait d'un annon attaché, et voilà que les disciples en trouvent un, justement. Et Marc précise l'annon attaché dehors près d'une porte dans la rue. Voilà la précision. Jésus avait anticipé la question des gens et la réponse à apporter, et puis on voit au verset 6 que ça marche. Ils répondent comme Jésus leur avait dit, et puis ils peuvent emmener l'annon avec eux. Voilà une mission bien facile. N'est-ce pas? Mais pourquoi choisir cet animal sur lequel personne n'est jamais monté? Pourquoi cet animal en particulier pour l'arrivée de Jésus à Jérusalem? Eh bien, pour comprendre cela, nous pouvons nous aider du texte parallèle que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 21, au verset 5, nous rapporte une citation de l'Ancien Testament pour expliquer cet événement. Et donc, cette prophétie en question est la suivante. « Dites à la fille de Sion, c'est-à-dire Jérusalem, dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne. » Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Voici ton roi qui vient à toi, monté sur un âne. Voilà la référence de cet événement. Et voilà pourquoi Jésus choisit cet animal en particulier. Jésus est en train de réaliser et d'accomplir cette prophétie. Alors, c'est vrai que dans le texte de Marc, il ne mentionne pas ce texte, il ne cite pas ce texte, mais clairement, en présentant la manière dont Jésus se comporte, il est en train de dire que Jésus est en train de préparer tout ce qu'il faut pour évoquer, dans le but d'évoquer cette image du roi qui doit venir sur un âne. Ce roi qui vient, les Juifs le savent, c'est le Messie. S'il y a un roi qui doit entrer dans Jérusalem sur un âne, c'est le Messie. Donc si Jésus fait ça, c'est qu'il est en train de montrer clairement qui il est. L'ânon est, si vous voulez, un des signes distinctifs du roi qui vient. Et pour nous qui lisons cet épisode aussi, eh bien, c'est un indice pour nous de nous dire, effectivement, ce Jésus-là est en train d'accomplir quelque chose qui a été annoncé à son sujet. Un symbole suffisamment clair pour pouvoir le reconnaître. Un peu comme si vous vous promeniez en cape rouge, avec un S brodé devant, bah, tout le monde va reconnaître votre déguisement de Superman ou de Supergirl. Mais Jésus, ici, ne se déguise pas. Il vient avec un ânon, et c'est ainsi que les gens peuvent l'identifier comme étant le Messie. Et toujours d'après Zacharie, chapitre 9, verset 10, nous apprenons que le Messie, dans la description, le portrait qu'on fait du Messie, le Messie annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Le Messie annoncera la paix. La paix, c'est ce message que Jésus annonce en se présentant à Dodan. Il est le roi qui vient en paix. Il est le roi qui vient annoncer la paix à Jérusalem. Et plus largement, la paix à toutes les nations. Par toute cette préparation, Jésus dévoile publiquement qui il est. Et voyez avec quelle humilité ce roi d'Israël arrive à Jérusalem. Et nous pouvons nous demander quelle est cette paix que Jésus annonce. Nous pouvons nous demander quelle est cette paix que Jésus annonce. Eh bien, il s'agit de la paix entre Dieu et les hommes. Il s'agit de la paix entre les hommes également, les uns avec les autres. Écoutez ce que l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 2, des versets 13 à 18. Un magnifique texte pour nous parler de la paix que Jésus apporte. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Waouh, quel texte! Quel texte dans un monde comme celui d'aujourd'hui où persistent la haine et le racisme? Notre monde où persistent la haine et le racisme a tellement besoin d'entendre ces paroles à propos de Jésus, a tellement besoin d'entendre parler des conséquences de son sacrifice à la croix. Il est venu afin de nous réconcilier, de nous permettre de faire la paix avec Dieu, d'être accepté par Dieu alors que nous l'avions rejeté. Et chose extraordinaire, qui fait aussi partie du plan de Dieu, c'est que toutes les personnes qui sont réconciliées avec Dieu peuvent être en paix les unes avec les autres, quelle que soit leur origine, juif ou non juif. Une seule humanité qui vit la paix dans toutes ses relations. En venant humblement à Dodan, Jésus se présente comme le roi de paix, dont nous avons tant besoin dans notre humanité. Et est-ce que tu as compris quelle est la paix que Jésus annonçait? Si tu as placé ta confiance en Jésus, alors tu es déjà en règle devant Dieu. Tu peux profiter de ta relation avec Dieu, en toute confiance. Paul dit d'ailleurs dans la suite du passage que nous venons de lire, « À travers lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, à travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, par le même Esprit. » Et peut-être qu'en ce moment, les circonstances que tu vis troublent ta paix. Peut-être qu'en ce moment, les pensées s'agitent en toi. L'inquiétude par rapport à l'avenir domine peut-être ton quotidien. Je t'invite maintenant à te recentrer sur Jésus, à reconnaître de nouveau ce roi venu pour annoncer la paix. Et si tu es chrétienne, si tu es chrétien, tu as fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Tu as fait la paix avec Dieu puisque désormais tu vis pour lui et non pas contre lui. Et même dans les épreuves, même dans les moments de trouble, tu sais que Dieu ne sera jamais contre toi. Et si en ce moment ça va, si en ce moment ça va avec Dieu, si tu vis une bonne relation avec Dieu, si tu es en paix avec Dieu, n'oublie pas que c'est grâce à Jésus. Et non pas parce que tu es un meilleur chrétien ou une meilleure chrétienne. Si tout va bien, c'est grâce à Jésus également. Jésus a pris le soin de préparer son entrée ou son arrivée à Jérusalem, à Dodan. Et par cette image, il se présente comme le roi qui vient annoncer la paix. Et la foule va effectivement comprendre cette allusion de Jésus, d'où une louange spontanée qui accompagne le cortège. Et je vous propose de voir ce deuxième temps dans notre récit, une louange spontanée. Relisons les versets 8 à 10. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Avant même d'entrer à Jérusalem, Jésus est accueilli comme le Messie par ceux qui étaient avec lui, par ceux qui l'ont suivi. Et ces personnes sont sans doute celles qui ont suivi Jésus depuis un moment déjà. Elles ne viennent pas juste d'arriver. Elles sont là depuis un moment avec Jésus. Marc nous dit déjà au chapitre précédent qu'une assez grande foule accompagnait Jésus à la sortie de Jéricho. Une assez grande foule accompagnait Jésus. Et de son côté, Luc précise aussi que Jésus marchait devant la foule pour monter à Jérusalem. Donc il y avait déjà la présence de cette foule. Et que ceux qui crient Hosanna, il le dit un peu plus loin, que ceux qui crient Hosanna étaient la foule des disciples. Alors cela mérite peut-être une petite parenthèse. Contrairement à ce qu'on peut dire couramment à propos de cette foule qui crie Hosanna, contrairement à ce que j'ai longtemps cru moi-même, il n'est pas certain du tout que ceux qui crient Hosanna ce jour-là soient les mêmes qui crieront « Crucifie-le » à cause de ce que je vous mentionne ici. Une foule accompagnait déjà Jésus, donc ce ne sont pas les gens de Jérusalem. Et puis, Luc précise, c'est la foule des disciples. Est-ce que des disciples diraient à la fin de la semaine « Crucifie-le » ? Je laisse cela à votre appréciation et je ferme la parenthèse. Les gestes de cette foule, si on revient à notre texte, les gestes de cette foule sont explicites. Ils étendent leurs vêtements, ils étendent des branches par terre, tout ça étant le signe de leur soumission, parce qu'ils reconnaissent que Jésus, qui est en train de parcourir ce chemin de ce village jusqu'à Jérusalem, eh bien ce Jésus-là est leur roi. Et ils proclament haut et fort « Hosanna !» Vous connaissez ce mot, « Hosanna » ? Parfois, nous l'avons dans les chants. Et comme vous le savez, peut-être, « Hosanna » au départ signifiait « Sauve-nous !» conformément à ce que nous trouvons dans le psaume 118. Je vous cite le verset 25. « De grâce, ô Éternel, accorde le salut. » Donc c'est là que nous avons « Hosanna ». « Accorde le salut. » « De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. » « Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. » Et là, vous reconnaissez ce que scande la foule à ce moment-là. Ils sont en train de citer ce passage du psaume 118. Mais ils disent précédemment « Hosanna ». Et en fait, peu à peu, ce mot « Hosanna » est devenu un terme comme « Alléluia ». Un terme pour signifier « Louange, gloire à Dieu ». Et la foule, à ce moment-là, est dans la joie. Donc, elle n'est pas en train de dire « Sauve-nous », mais « Gloire à Dieu ». Parce que celui qui vient au nom du Seigneur est là pour accorder le salut, pour apporter le salut. Il est le digne héritier du trône de David. C'est pour ça qu'ils disent « Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David ». Et rappelons-le encore une fois, le Messie est le roi qui devait venir, qui devait descendre de la lignée de David. Et Jésus, effectivement, et le roi légitime d'Israël. Toutes les déclarations de ceux qui le précèdent et de ceux qui suivent Jésus sont exactes à son sujet. Même si cette foule est encore loin de comprendre toute la portée de ce qu'elle est en train de dire. Mais déjà, tout ce qu'elle est en train de proclamer haut et fort est vrai concernant Jésus. Et effectivement, dans son humanité, Jésus s'inscrit dans notre histoire et il est bien le roi d'Israël. Parce que quand on y pense, qui d'autre que Jésus, Dieu incarné, qui d'autre que Jésus serait plus digne de régner sur le trône d'Israël ? Mais de quel royaume Jésus parlait-il plus souvent ? Non pas du royaume de David, mais d'un royaume plus vaste, et plus glorieux, du royaume de Dieu. Jésus a enseigné au sujet du royaume de Dieu, et c'est ce royaume qu'il est en train de représenter, notamment lorsqu'il proclame aux gens que le royaume de Dieu est proche. C'est ce royaume qu'il est en train de représenter, bien plus encore que le royaume de David. Et les contemporains de Jésus s'attendaient peut-être à ce que Jésus les libère de l'oppresseur romain. Mais par sa mort à la croix, Jésus nous libère d'un oppresseur bien plus féroce, qu'est le péché. Et comme l'exprime l'apôtre Pierre, dans sa compassion, Dieu nous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. Jésus vient régler le problème du péché et nous fait échapper, par sa mort, aux conséquences éternelles du péché, notamment la séparation éternelle avec Dieu. Il nous fait échapper à ça. Quelle heureuse nouvelle pour nous. Effectivement, béni soit celui qui est venu de la part de Dieu le Père pour triompher du mal. Et comme la foule, nous avons des raisons de louer Dieu. La venue de Jésus à Jérusalem est une bonne nouvelle aussi pour nous. Et cette arrivée est le signe du salut qui vient avec Jésus. Pour la foule, Hosanna n'est plus le cri qui signifie « Sauve-nous !» car le Sauveur, le Libérateur est déjà là. Ils n'ont plus besoin de crier « Sauve-nous !» Le Sauveur est déjà là. Et au contraire, ce qu'ils crient désormais, c'est « Hosanna ! Gloire à Dieu !» car il a envoyé son Messie. Et de la même manière, nous n'avons plus besoin de crier « Hosanna !» dans le sens de « Sauve-nous !» mais « Gloire à Dieu !» parce qu'il a déjà envoyé son Sauveur. Et lorsque nous chantons « Hosanna !» dans les chants que nous entonnons, nous adressons en même temps cette louange à Dieu en lien avec le salut qu'il a envoyé par Jésus-Christ. Jésus est la réponse de ce cri « Sauve-nous !» Et nous avons d'autant plus des raisons de nous réjouir parce que nous nous situons après la mort et la résurrection de Jésus. Contrairement à la foule, aujourd'hui, nous sommes conscients de ce que Jésus a accompli. Et en même temps, nous pouvons rejoindre les cris de la foule et louer Dieu avec joie parce qu'il nous a sauvés. Est-ce que tu as cette joie du salut ? Est-ce que tu as cette joie du salut ? Souviens-toi de ce roi monté sur un ânon. Souviens-toi de cette foule qui crie « Hosanna !» Souviens-toi que Jésus est entré à Jérusalem pour ton salut. Et cette semaine, au milieu de tout ce que tu as à faire, prends le temps de te réjouir. Prends le temps de te réjouir de ce que Jésus a fait pour toi. Et cela peut être une louange spontanée. 2-3 chants qui t'aident à te souvenir de Jésus et de son œuvre de salut. 2-3 chants pour exprimer ta louange et ta reconnaissance. Prends le temps de te réjouir cette semaine de ton salut. Nous avons là le portrait du Messie. Paix et salut caractérisent son règne. Et après avoir préparé son arrivée, après avoir été acclamé par la foule, au milieu de cette louange spontanée, Jésus entre dans la ville. Alors voyons comment Marc décrit ce moment. Une entrée avec humilité. Relisons le verset 11. Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Après toute cette effervescence populaire, ce moment au temple semble beaucoup plus calme. Jésus ne se fait pas remarquer, en tout cas pas tout de suite. Et lorsque nous lisons, alors c'est vrai, lorsque nous lisons le récit de Matthieu par exemple, nous pouvons penser que dès son entrée à Jérusalem, Jésus se rend au temple et il chasse les marchands. Mais en réalité, et vous le voyez ici, à travers ce récit de Marc, nous découvrons que Jésus est d'abord venu au temple, presque incognito, ou en tout cas, comme s'il était en reconnaissance, comme s'il n'était que de passage. Et ce n'est que la suite, les versets 15 à 19, qui nous informent que Jésus chasse les marchands le lendemain. Des 4 évangiles, Marc est le seul à nous parler de ce moment, qui est décrit au verset 11. Si c'est le seul à en parler, c'est que, sans doute, on doit porter notre attention là-dessus. Il est le seul à mentionner le fait que Jésus est là, à sillonner dans le temple et à observer ce qui se passe. Mais sans faire autre chose, sans enseigner, sans faire de bruit. Et certains commentateurs ont même suggéré que ici, Jésus ne fait qu'observer ce qui se passe pour préparer son action pour les jours à venir. Quoi qu'il en soit, tout ce qui nous est décrit de Jésus reflète son humilité. Regardez avec quelle discrétion le Seigneur se présente au temple. après une arrivée triomphale. Et le texte semble suggérer que Jésus n'est pas resté très longtemps. Comme il était déjà tard, il est sorti et puis il est allé à Béthanie, un village à côté de Jérusalem. Donc il n'est pas resté très longtemps, sans doute. Tout ce que Jésus fait est réfléchi. Tout ce que Jésus fait est soumis au projet de Dieu le Père. Et Jésus va suivre le plan de Dieu jusqu'à la mort, jusqu'à la crucifixion, par amour pour nous. Et précédemment, Jésus avait dit à ses disciples d'une manière très claire ce qui allait se passer à Jérusalem. Dans Marc chapitre 10, nous lisons ce qu'il annonce à ses disciples avant d'arriver à Jérusalem. « Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Dans cette perspective, cette arrivée à Jérusalem, au milieu de la joie et de l'excitation, nous révèle un roi qui ne recule pas devant ce qu'il est venu accomplir. Lui qui a dit que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est en cela que Jésus est le roi serviteur. Roi serviteur. Deux mots qui nous semblent tellement opposés. Un roi et un serviteur en même temps. Et pourtant, deux mots qui sont tellement sublimes quand ils concernent Jésus. C'est là que nous voyons la beauté de Jésus. Il est roi et serviteur à la fois. Bien sûr, serviteur de Dieu, mais il est serviteur. Et c'est la logique de son royaume. Lui-même l'enseigne. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et à ce titre-là, par son attitude de serviteur, Jésus est le plus grand d'entre nous. Chers amis, cette leçon d'humilité nous rappelle la mission du Messie qui n'était pas venu pour chasser les Romains, mais il était venu pour être cloué par les Romains. Il n'est pas venu pour chasser les Romains, mais pour être cloué par les Romains. Afin que ça, par sa mort, nous recevions la vie. Veux-tu être soumis à un tel roi? Veux-tu d'un roi qui a souffert pour toi? D'un roi qui est mort pour toi? Veux-tu servir un tel roi? Veux-tu consacrer ta vie pour un tel roi? Alors, je ne vais pas te dire ce que tu dois faire. Réfléchis simplement à ce que tu pourrais faire dès cette semaine ou dans les 6 prochains mois. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Si Jésus est ton roi, comment comptes-tu le servir? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour Jésus, ce roi venu humblement apporter la paix et le salut? Et si tu as accepté Jésus comme Messie, comme roi, est-ce que tu vis cette réalité où Christ règne dans ta vie, comme nous l'avons chanté au début du culte? Est-ce que tu vis cette réalité? Et c'est une question que je me pose à moi-même. Est-ce que ma vie révèle que je suis soumis au roi serviteur? Ou est-ce que par mon orgueil, je démontre que je n'ai pas compris ce que signifie être un disciple de Jésus? Ce que signifie être un sujet du roi serviteur? Est-ce que j'ai tendance à être insoumis, à vouloir prendre le contrôle de ma vie sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan personnel? Et même peut-être aussi dans le service à l'Église. Laissez-moi vous raconter l'histoire du comte de Zinzendorf. Cela s'est passé dans l'Allemagne du XVIIIe siècle, dans les années 1700. Cet homme est connu pour avoir donné asile à des frères moraves, c'est-à-dire des protestants qui venaient de la région de Moravie, qui est une partie de l'actuelle République tchèque. Et ces protestants étaient persécutés par l'Église catholique. Et donc, ils ont trouvé refuge auprès de ce comte. Ce comte est également connu pour avoir contribué à l'œuvre missionnaire. Et on rapporte qu'à sa mort, 226 missionnaires de sa communauté étaient actifs dans 24 pays dans le monde. Donc, à sa mort, 226 missionnaires étaient actifs dans 24 pays dans le monde. Mais ce cœur pour la mission n'est pas venu tout seul. Un jour, alors qu'il visitait un musée d'art, il s'est arrêté devant un tableau qui représente Christ avant sa crucifixion, devant ce tableau en particulier. Il a regardé pendant un temps ce tableau et il a été bouleversé en voyant ce Jésus couronné d'épines. Et surtout, je pense qu'il a été bouleversé par l'inscription qui était tout en bas du tableau. Bon, c'est un peu moins lisible ici, mais une inscription qui était juste en dessous, au bas du tableau. Il a été bouleversé en lisant cette inscription. Et voici ce qu'on y lit. « J'ai souffert cela pour toi. Toi, qu'as-tu fait pour moi ?» J'ai souffert cela pour toi. Toi, qu'as-tu fait pour moi ? Et on rapporte qu'il raconte ce qu'il a vécu à ce moment-là. Je vous cite. « Je sentis que je n'avais pas grand-chose à répondre à cette question et je suppliais le Seigneur de placer devant moi ce qu'il désirait que je fisse pour lui, puis de m'accorder la force dont j'avais besoin. » Il ne savait pas quoi répondre à cette question, mais il a fini par trouver. Et l'œuvre missionnaire que je vous ai mentionnée, eh bien, c'est à cela qu'il a contribué, après cet épisode. Seul le Seigneur peut bouleverser quelqu'un de cette manière-là. Et toi, qu'as-tu fait pour lui ? Qu'as-tu fait pour ton roi ? Si tu considères ta vie jusque-là, qu'as-tu fait pour lui ? Si tu es à un carrefour de ta vie, si tu te demandes ce que tu vas pouvoir faire plus tard, si tu as l'impression que ta vie ne tourne pas autour des intérêts de Jésus, alors pose-toi la question de ce que tu pourrais faire pour lui. Parce que tu sais ce que veut dire l'entrée de Jésus à Jérusalem. Tu sais qu'il est entré dans cette ville pour y mourir pour toi. Donc, qu'as-tu fait pour lui ? Vous savez à présent ce que signifie l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Reconnaissons ensemble en Jésus le roi qui est venu humblement nous apporter la paix et le salut. Oui, reconnaissons-le dans notre vie et vivons pour lui. Nous avons relevé que Jésus a soigneusement préparé son arrivée à Jérusalem. Il a donné un signe pour le reconnaître. Et en montant sur un ânon, Jésus nous révèle qu'il est le roi messianique, le roi de paix. Tournons-nous vers lui pour notre paix. Et la foule l'a spontanément acclamé comme le roi d'Israël, le Messie promis. Plus besoin de crier « Sauve-nous !» Au contraire, crions « Gloire à Dieu !» Louons-le pour le salut qu'il a apporté. Et puis ce roi de paix est venu avec humilité. Et il nous apprend à être serviteur, lui le roi serviteur. Et si nous reconnaissons Jésus comme roi, eh bien notre vie devrait être une vie au service du roi. Alors quelle est votre réponse à la parole de Dieu ? Je vous invite à fermer les yeux et à pouvoir, dans ce tête-à-tête, ce face-à-face avec Dieu, simplement lui répondre. Si vous avez été interpellé par l'un ou l'autre élément, de les laisser encore vous interpeller et de lui répondre par votre vie. par votre prière.